Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà. Bien. Alors ce matin, je voudrais dire des choses très simples. Parce que j'ai eu la pensée que nous avons au milieu de nous naturellement des anciens, des frères, des sœurs qui connaissent bien la parole, mais aussi nous accueillons des frères ou des amis, en tous les cas qui sont peut-être dans la démarche d'aller un peu plus loin avec le Seigneur et qui sont là tout simplement eh bien, à boire l'évangile. Et j'aimerais dire des choses simples. Alors ça tiendrait un petit peu de l'évangélisation, hein. Alors venez ne pas me voir après en disant « moi je suis converti depuis 50 ans hein ». Voilà. Alors, j'ai à cœur justement de vous donner ces éléments tout simples. Ah oui. Vous savez que j'ai besoin de toutes sortes d'instruments orthopédiques. Alors voilà. Bien. Nous allons... nous entretenir sur les illusions et les réalités de la vie, de notre existence, de la foi. Et pour cela, j'aimerais que nous fassions une première lecture dans Matthieu chapitre 15 et au verset 13. Verset 13 et 14. Donc, Matthieu, chapitre 15, verset 13, et le suivant. Jésus répond tout simplement à une question de ses disciples concernant les pharisiens, ce monde religieux du temps de Jésus. Alors Jésus répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée avec... l'explication, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Quand je vous disais que c'était simple, c'est très simple, parce que c'est l'évidence. Hein. C'est certain qu'on ne va pas confier notre vie, et on ne va pas confier finalement eh bien là, à suivre quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Et surtout, s'il ne voit pas, s'il est aveugle. Hein, c'est quelque chose même de dangereux. Et Jésus le met finalement dans eh bien, ses enseignements. Alors, nous allons aujourd'hui aller à la découverte. On va faire un petit peu l'état des lieux sur trois points particuliers. Et regardez bien dans votre mémoire, je parle des illusions et des réalités. Il y a des gens qui se font toutes sortes d'illusions, ils pensent que c'est la réalité. Et puis, quelque part, eh bien, ça peut être aussi le contraire. Alors, l'état des lieux pourrait se décomposer de cette manière. Aller à la découverte de trois histoires inédites qui s'illustrent autour d'une évidence, une évidente affirmation biblique. Dans Jérémie, et je voudrais nourrir un petit peu le contexte, dans Jérémie, le prophète Jérémie, au chapitre 10, verset 23, je cite tout simplement ce qu'il a dit. « La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. » Alors on en a tous fait l'expérience, plus ou moins je suppose, et c'est vrai que quelquefois Dieu nous ramène aux réalités, parce que nous pouvons nous faire toutes sortes d'idées. Nous pouvons, eh bien là, même dans le domaine de la vie spirituelle, dans le domaine de nos projets, de nos engagements, de toutes sortes de choses, qu'ils soient matériels, économiques, sentimentaux, enfin toutes sortes de choses. Attention, entre l'illusion et la réalité. Et c'est pour ça que Jérémie, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a dit ceci, « La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, et tant que nous serons sur terre, malgré les grands projets, les rêves que nous pouvons avoir, faisons attention que ça ne se tourne pas en cauchemar. » Pour la bonne raison que ce ne sont que des illusions. Alors, naturellement, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ça, il faut en être convaincu quand on est chrétien. Parce qu'autrement, il y aura probablement des montagnes, des murs devant nous. Et ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. Ça, c'est une des choses que j'ai connues il y a maintenant 45 ans, lorsque je me suis converti, ou vraiment d'une manière très très forte dans mon cœur, parce que j'avais 20 ans à l'époque, et Dieu m'a dit, eh bien, oui, je dis bien Dieu m'a dit, parce que je m'en souviens encore, que tout ce que je pouvais avoir conçu, eh bien maintenant c'était entre ses mains, et je pouvais le laisser faire pour qu'il me conduise jusque là où j'en suis aujourd'hui. J'aurais eu certainement une vie tout à fait différente, comme vous hein, d'ailleurs, certainement. Et puis il s'est suivi par un proverbe, ça c'est une introduction, hein. C'est suivi par un proverbe au chapitre 16, verset 9. Le cœur de l'homme, et ce qui revient à ce que nous avons dit, le cœur de l'homme médite sa voix, que de temps passé, que de projets, que de rêves, ou toutes sortes de choses, hein, pour aller dans des découvertes, pour mettre un plan en place, etc. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Nos jambes ne nous appartiennent pas. Notre cœur ne nous appartient pas. Nos pensées ne nous appartiennent pas. Et lorsque nous faisons la comparaison entre l'obéissance et la désobéissance, c'est flagrant. Mais cette constatation ne peut se faire qu'après l'expérience. Après des temps, quelquefois des mois, où là on s'aperçoit quand on regarde derrière en disant « voilà ». Et c'est ce que nous avons fait ce matin dans la louange et dans l'expression de notre gratitude en disant « mais merci Seigneur, merci de m'avoir sauvé, merci de ce que tu es tous les jours dans ma vie ». Merci de ce que tu m'as dirigé, je prenais un chemin, je prenais des chemins, et aujourd'hui, si, sans l'avoir vécu, puisque j'ai pris un autre, mais de dire, eh bien Seigneur, heureusement tu m'as gardé de beaucoup de choses. Amen. Et aujourd'hui, s'il y a peut-être dans le fond de notre cœur quelque chose qui peut véritablement nous faire éclater en allégresse, c'est de savoir que dans les temps dans lesquels nous vivons, peut-être les derniers, eh bien nous avons le Seigneur avec nous. Amen. Et oui. Parce que, considérez quelques instants l'angoisse que ça peut être. Quand vous êtes sous les bombes, quand vous n'avez plus rien à manger, après avoir eu le confort, après avoir connu d'autres choses, et que cela vous ait ravi d'un seul coup, je pense qu'on peut bénir le Seigneur, non pas ? N'est-ce pas ? Ça, c'est vrai. Alors, soyons reconnaissants. Encore une fois de plus, je vieillis, mais je le répète. Soyons reconnaissants de vivre dans un pays comme le nôtre. Il n'est pas parfait, loin de là. Mais néanmoins, il y a pire. Ça, c'est sûr. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Il est question de voie, il est question de chemin. Il est question de pouvoir ou non. Il est question de marcher et d'être dirigé. Il y a plein de versets bibliques hein, dans notre livre, le livre de Dieu. Oui, il est question de tout cela, hein, marcher, diriger, inspirer, voilà, révéler aussi. Alors pour cela, on va prendre un exemple. Ce sera le premier exemple que l'on va prendre. C'est dans le livre des Actes des Apôtres. Alors c'est pareil, hein, c'est un texte que vous connaissez bien. Et on va lui donner quelques mots de commentaire. Chapitre 27 et verset 9. C'est du connu, hein. Verset 9. Et là, nous allons mesurer que ce n'est pas en notre pouvoir. On peut méditer des choses, mais c'est Dieu qui nous dirige, quoi qu'il en soit. Alors, un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres, 273 personnes sur ce navire qui traverse la mer des Méditerranées pour aller de la Palestine jusqu'à Rome. Ça, c'est le contexte. Il avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, mais pour le navire, encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Et voilà qu'il nous est dit d'une manière très subtile, subtilement on pourrait dire, un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maître de leur sort, se croyant maître de leur sort, de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète, mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Euraquilon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Alors ça, on connaît tous, on comprend tous ce que ça veut dire. Il s'agit d'un péril en mer. Et si vous avez été marin, bon ben, c'est bon, mais là, dans la circonstance qui nous est décrite, c'était quand même un sérieux coup de tabac, on peut dire les choses comme ça. Paul va avertir. Et nous allons voir un petit peu le déroulé de ces paroles, de cet avertissement. Il va avertir, il va dire, mais voilà, il y avait ceci, il y avait cela, mais bon, vous n'avez pas observé, vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas cru, tout simplement. Hein. Peut-être une question de foi, là. Et là, il y a la consultation dans cette angoisse de faire naufrage, la consultation de trois intervenants qualifiés. Je dis bien trois intervenants qui ne sont pas des novices de la mer, qui ne sont pas des apprentis, mais des gens qui véritablement eh bien, sont certifiés et qualifiés. Il y a le propriétaire, celui qu'on appelle le patron du navire, qui est garant de la cargaison, qui est garant aussi de son bateau, parce que ça représente certainement une fortune. Et puis dans ce bateau qui est sur la mer, dans la tempête, il y a une cargaison de choses importantes. De blé, si c'est pour la nourriture, peut-être d'autres choses, hein, des amphores, et puis peut-être des matériaux précieux. Donc lui, il est le patron. C'est, nous pourrions dire, l'armateur. Alors on va se tourner vers lui, et puis on va lui dire, mais... Et lui, il a ses intérêts dans cette affaire. Il ne veut pas voir les choses perdre. Mais vous savez, quelquefois, hein, pour gagner, il faut savoir perdre. Parce que les choses que nous voulons garder, nous les perdons. Qui perd, gagne. On pourrait peut-être le proposer de cette manière. Et c'est l'aspect économique. Hein. Lui, c'est le patron, c'est lui qui avance l'argent et qui va finalement aller jusque normalement où il a fait le dessein d'aller. Il y a le deuxième, c'est le pilote. Alors le pilote, c'est intéressant parce qu'on peut dire qu'il a l'expertise de la mer. Et il fait que ça. Hein. Toute sa vie, il fait que ça. Hein. Et il a dû en voir. Des temps calmes et puis des temps tellement déchaînés qu'il y a peut-être plus d'une fois. En effet, il a menacé peut-être de passer par le bord, hein, lui-même, avec son bateau. Hein. Peut-être pour ceux qui sont un peu plus anciens dans cette salle. J'ai souvent écouté les commentaires de Victor Paul. Vous savez, il est au milieu de nous. Hein. Et il s'est fait baptiser tardivement. Il avait 85 ans, 86 ans quand il s'est fait baptiser. Et on a parlé souvent de cela, parce qu'il était capitaine de bateau. Et il nous a raconté des histoires, une vie hein, de capitaine. Eh bien, il nous a dit, mais combien de fois on a véritablement pensé qu'on allait vers le fond hein. Et déjà, c'était un prémisse de sa conversion, il disait « on criait à Dieu », alors qu'il était catholique à l'époque. Donc, ce qui montre qu'un capitaine, un pilote, c'est quelqu'un qui, quelque part, eh bien, a l'expertise, c'est un spécialiste de la navigation, et il doit assurer eh bien, le départ jusqu'à l'arrivée. Hein. C'est ça son travail, hein. C'est pas de faire autre chose, hein, selon le contrat qui lui a été donné. Il y a un troisième personnage, donc j'ai bien dit le propriétaire-patron, le pilote, et puis il y a le centenier, qui là, eh bien, a une fonction tout à fait particulière, un capitaine si vous voulez, hein, et il va faire la route entre la Palestine et Rome, donc la capitale d'Empire. Et il est là pour quelques prisonniers qui sont chargés d'être remis, eh bien là, et entre autres Paul, se trouve à ce moment-là. Donc le centenier, c'est l'homme qui est garant et c'est le préposé à la sécurité des personnes, de l'équipage et des prisonniers. Et il en va de sa vie. Hein, parce que dans l'Empire, hein, eh bien, on ne rigolait pas quand un prisonnier se sauvait et qu'il était sous la responsabilité, que les choses n'ont pas été faites correctement. Alors, nous avons là, dans ce résumé très simple, nous avons là, dans ce passage, l'évocation des capacités limitées humaines. Vous me suivez ? Oui ? Oui, parce que c'est ça, hein ? Réalité, illusion ou réalité ? Donc, c'est ce qui nous montre les limites de ce que l'homme peut penser, envisager, et ce qui arrive, quelque part. Alors, on a trois représentants de gens qui, quelque part, on peut leur faire confiance, mais ce sont que des hommes. Et c'est là, justement, là, peut-être la difficulté. Et puis, il y a un quatrième. C'est celui dont il est question dans tout le livre des Actes, une grande partie du livre des Actes. C'est celui que j'ai appelé, que j'appellerai, que je nomme devant vous, le cheveu sur la soupe. Peut-être que, vous avez compris, c'est Paul. Peut-être qu'il ne serait pas content, surtout s'il était cheveux, il était chauve. Mais toujours est-il que c'est lui, Paul, le cheveu sur la soupe, parce qu'il y a des hommes qualifiés, des hommes d'autorité, des hommes qui ont le pouvoir, etc. Mais Paul, c'est l'homme de Dieu. Ouais. C'est l'homme de Dieu, celui qui ne connaît rien à la mer. Il connaît bien la Bible, il connaît bien la Torah, il connaît beaucoup de choses, universitaire, formé à Tarse, au pied de Gamaliel. Donc il a une tête comme ça, hein. Enfin on pourrait dire. Il a un cœur rempli de modestie et d'humilité. Et c'est l'homme de Dieu qui ne connaît rien à la mer, mais qui sait. Il sait ce que les autres ne savaient pas. Il sait ce que vous savez maintenant. Et il sait ce que le texte, tout simplement, eh bien, nous dit. Il dira, un ange de Dieu m'a parlé. C'est un peu plus, hein, tournez les pages de votre Bible, c'est un peu plus loin, au verset 24. Il dit ceci, ces paroles, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Il a l'apparition d'un ange qui lui dit, mais tu vas aller à Rome quand même. Et pourtant, rien ne peut faire supposer et donner confiance, rassurer qu'il va aller jusqu'à Rome. Parce que la tempête est tellement terrible que de toute manière, à un moment donné, il dit, tout l'équipage avait perdu espoir. Il n'y avait même plus de lumière dans le ciel, plus de soleil, rien du tout. Le climat et le temps étaient tellement mauvais que finalement ce bateau était voué à passer par le fond. Et il dira ces paroles, parce que moi j'aime beaucoup ces paroles, et ça doit nous rassurer les uns et les autres. Les hommes peuvent nous parler, quelle que soit leur discipline médicale ou les connaissances qu'ils peuvent avoir. Il faut les écouter, ça c'est sûr. Mais attention, notre foi, elle doit être avant tout cela. Ouais. Et ça, c'est un réflexe que nous devons avoir. Je n'aurais pas parlé de moi, mais quand j'ai eu tous les problèmes de santé il y a 3-4 ans, il y avait toutes les pathologies, naturellement, étaient identifiées à ce moment-là. Et il y avait tous les protocoles de soins. Et c'est vrai que je me souviens, à un moment donné, au fond de moi-même, je me dis, c'est très bien, les hommes soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Et je me suis dit, moi, je me mets sous le protocole du Saint-Esprit. Autrement, je ne serais peut-être pas là pour vous parler. Dieu en premier, même si les hommes interviennent, il faut les laisser parler, il faut leur laisser dire. Il faut en prendre peut-être ce qui est bon, mais le reste, il y a des choses en disant, Seigneur, voilà, j'ai reçu tel ou tel conseil, tel ou tel ceci et cela. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Et pas se fixer, pas se coincer mentalement, sentimentalement, affectivement sur uniquement ce que nous disent les hommes. Respectons les hommes, mais prenons conseil auprès de celui qui sait tout. Et Paul pouvait affirmer cette parole, je sais qu'il en sera comme il m'a été dit. Et celui qui dit, c'est Dieu. Eh oui, c'est le Saint-Esprit. Ne sentons-nous pas quelquefois dans des problématiques où on a une pensée, jour ou nuit, peu importe, où là nous avons une pensée qui fait force à l'intérieur de nous-mêmes, et il y a quelque chose qui nous rassure, on rentre en paix. Et quelquefois la tempête ne cesse pas, comme dans le texte, ça souffle encore. Quelquefois on va perdre encore de la guérison, on va perdre encore des choses. Mais non, si Dieu l'a dit, c'est qu'il va le faire. Tout ce que vous demanderez, en mon nom, je le ferai à mon Père, naturellement. Demandez avec foi et vous le verrez s'accomplir. C'est simple, hein ? Alors, naturellement, eh bien, on a tout cela devant nous comme réflexion de cette première proposition, illusion et réalité. Et c'est quelque chose qui nous donne la force. La parole de Dieu nous donne la force. Combien de fois nous avons eu recours dans nos détresses, dans nos inquiétudes, là où nous perdions un petit peu le... Nous perdions pied, c'est le mot à dire. Où là, véritablement, une parole est venue, toute simple. Et elle fait force de loi à ce moment-là. Et on reprend courage. C'est important. Souvenons-nous de ce que nous avons lu au départ. Ce sera la première conclusion de cette première partie. Souvenons-nous de cela. Jésus dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Ils tomberont tous deux dans une fosse. Eh oui. Il y a des gens qui sont dignes de confiance. Il n'y a pas de problème. Mais ils peuvent se tromper, même en étant dignes de confiance. Et puis, il y a des gens, il vaut mieux pas faire confiance. Parce que ce sont des spécialistes pour donner. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et à un moment donné, si vous faites trop confiance à ce moment-là, ben, on se prend un mur. On a tous essayé ça. C'est vrai, à un moment ou à un autre de notre vie. Vous savez, les gens qui nous encouragent, moi ça m'est arrivé dans ma vie professionnelle, où tous les gens disaient « Vas-y, vas-y, c'est toi qu'il faut qu'il y aille, parce que tu peux le faire. » Et puis, ils t'encouragent, puis à un moment donné, tu crois que tout le monde est derrière toi, tu te retournes, il n'y a plus personne. Et là, vous vous prenez un mur, ben, ça vous guérit pour la suite. Ouais. Cette leçon, cette première leçon que nous venons de voir, illustre l'aveuglement et la fausse confiance inconditionnelle dans l'homme. Notre vie d'aujourd'hui, dans les événements que nous vivons, est pleine de fake news. D'accord ? Dans le monde entier. Et, chose étonnante, c'est que les gens, sans vouloir se renseigner davantage, croient à des mensonges. Faisons attention. Vous savez, quand l'Antéchrist va venir, il ne viendra pas avec la vérité. Et il viendra taper à la porte des églises. Il fera même une démonstration de sa puissance. Attention ! C'est important. Cette confiance inconditionnelle dans l'homme et ses conseils, au lieu de la foi en celui qui sait, parce que Dieu sait, celui qui peut, parce qu'il a le pouvoir, et celui qui marche avec nous. Tout à l'heure, je vous ai parlé de derrière, mais lui, il marche devant nous. Ça, c'est important. Voilà la première proposition que je voulais mettre en évidence devant vous. Le deuxième point serait celui-ci. C'est une présentation, une représentation relative, justement, aux illusions et aux réalités de la foi. Le fameux récit des terrains, vous en avez entendu parler, trois fois je crois qu'ils sont, ou deux fois, je ne me souviens plus, dans les évangiles. Les terrains, c'est l'image du cœur. Voilà, on sait ce que peut être un terrain sur le plan agricole. Mais il y a là un particularisme où Jésus nous parle des terrains, mais il veut nous dire « c'est votre cœur le terrain ». Et comment est-il ? Dans quelles conditions ? Selon Matthieu, chapitre 13, et nous allons donc revenir dans l'évangile de Matthieu maintenant, chapitre 13, verset 4, je vais le relire, vous l'avez déjà entendu mille fois, mais on va le relire quand même. Alors, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba dans les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30, Alors, vous êtes venus avec vos oreilles, écoutez la suite. Vous savez que Dieu nous a fait des oreilles. Et il avait même prévu qu'il fallait nous faire des oreilles en raison du Covid qui allait venir pour attacher le masque. Formidable! Dieu a tout prévu. Parce qu'autrement, on serait comme ça. Ça vous fait rire, hein? Mais c'est sérieux. Enfin, je ne suis pas toujours sérieux, mais bon, c'est pas grave. Eh bien, ce verset des terrains met en évidence les diverses natures, écoutez bien, diverses natures et caractères moraux des hommes. Alors là, on va aller un petit peu plus loin. Hein, on va quitter la mer pour aller sur la terre, dans les champs. On peut dire ça comme ça. Alors, là où il était parlé, justement, un petit peu plus concret, au chapitre 15 de Matthieu, et nous allons y trouver finalement, et bien là, un passage particulier. Alors, chapitre 15, verset 3. Ah oui, c'est 15, verset 3. Ben écoutez, je vais le lire simplement parce que j'ai perdu la référence, mais c'est pas grave. Jésus dit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » D'accord ? Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Et on sait que la vie se trouve essentiellement dans la racine. Ça commence par là. L'enracinement, la plantule, la plante, l'arbre, qui devient peut-être un baobab ou un séquoia, peu importe, mais ça commence comme ça, hein, de toute manière. Ça commence comme ça. Parce que c'est l'image, la racine, c'est l'image de la robustesse, du maintien, de l'alimentation de la plante et de la fixation pour qu'elle puisse véritablement tenir naturellement et solide. Hein, tout ça, c'est ça. Alors, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Alors, il y a trois exemples particuliers. Il y a le roc, il y a les endroits pierreux, il y a également la friche, les ronces ou les épines, et puis il y a la bonne terre. Vous vous souvenez de tout cela? Alors, je vais en faire un commentaire rapide, mais c'est important. Il est parlé de ce semeur qui est sorti, et puis voilà, il a répandu sa semence, parce que c'est son état, hein, finalement. Les questions du roc, et les questions du chemin carrossé. Alors, c'est moi qui ai inventé, parce que le mot est récent, hein, le mot carrossé, c'était au moment où il y avait des carrosses, et puis maintenant, il y a des voitures. Hein. Allez planter, par exemple, des plantes sur l'autoroute, vous allez voir, ça ne pousse pas vite. Hein. Ça, c'est sûr. Mais c'est quelque chose qui nous parle aussi, hein. Et plantés sur les rochers, là, que nous avons, hein, ils sont costauds, hein, c'est pareil. Ça... Quoique dans certaines montagnes, vous avez des arbres qui sont assez étonnants, parce qu'en haut, avec peu de terre, rien du tout, c'est quelque chose, ils se balancent là au-dessus à 3000 mètres d'altitude, bah, ils trouvent quand même, hein, ils trouvent. Et c'est eux qui font éclater les rochers, quelque part. Alors pour revenir à cette pensée que Jésus nous laisse, il y a deux dangers qui... et ça, c'est vous restez toujours dans la pensée de la vie spirituelle, de la vie de la foi, hein, naturellement. Donc le danger du roc ou du chemin carrossé, ce sont les oiseaux du ciel, dont un autre texte nous dit ce sont les démons, ce sont les esprits méchants qui viennent et qui prennent la semence, qui la ravissent, qui la mangent, et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez, si elle est mangée, hein, elle ne donnera rien du tout, elle ne peut pas être semée, c'est fini. C'est les oiseaux du ciel, et ce roc, c'est naturellement eh bien, l'illustration là où rien ne peut pousser. On pourrait dire c'est la stérilité totale. La vie spirituelle, c'est ça, hein, aussi. Comment recevons-nous la parole, l'évangile? Comment la vivons-nous? Est-ce que nous voulons véritablement la voir développée ou alors tout simplement qu'elle meure avant même d'être dans... que la germination n'est pas finalement commencé son œuvre. C'est ça, naturellement. Hein. C'est la stérilité totale. C'est dommage, hein, qu'il y ait des gens qui, quelquefois... lisent la Bible, hein, ont reçu des témoignages extraordinaires, hein, qui quelquefois sont venus dans nos réunions, qui ont même fait l'expérience de la guérison divine miraculeuse. Mais c'est tombé sur le chemin et sur le roc, ça n'a rien donné. Il n'y a pas, on va voir la suite. Il y a un deuxième exemple qui nous est donné, ce sont les endroits pierreux. Et là, il y a un autre danger qui se fait jour, c'est l'absence ou l'insuffisance d'humus nourricier. Eh oui, il faut que ça pousse. Je sais que maintenant, on fait des cultures hors sol, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de terre, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus que tout simplement eh bien là, un liquide qui est de l'eau avec tous les propriétés nécessaires pour faire pousser la plante. Mais bon, normalement, ça a toujours été avec naturellement de l'humus. Et ça souligne l'absence et l'insuffisance. Vous savez, si nous voulons grandir spirituellement, parce que là, on est toujours dans le cadre des illusions et de la réalité. L'illusion, c'est qu'on peut penser qu'on est un bon chrétien, que finalement, on est plus fort que tout le monde, etc., etc. Mais ça, ça peut être une illusion, parce que finalement, on est le contraire. Mais on ne le sait pas, et on ne veut surtout pas le savoir. Ça s'appelle de la dénégation. Les réalités, c'est quelqu'un qui va venir à l'Évangile et qui là va croître. Il n'a pas besoin de faire du tam-tam. Il n'a pas besoin de remuer ciel et terre. Il est là, devant son Dieu, au milieu de ses frères, dans l'Église, et il vit ce qu'il a à vivre. Pas la peine de casser... Ah bon ? Vous avez donné la réponse, je l'ai entendue. Mais très bien, vous connaissez vos classiques. Alors, ça c'est quelque chose d'important, parce que qu'est-ce que c'est ces endroits pierreux ? Il y a donc cette insuffisance d'humus, et puis il y a aussi les ardeurs du soleil. Parce que s'il n'y a pas de racines, tout va brûler vite fait. Il y en a un qui n'était pas content. Alors vous le connaissez bien, c'est votre ami. Et lui, il avait un problème, c'est qu'il ronchonnait toujours. Il s'appelle, vous savez, celui avec son ricin, là. Comment il s'appelle ? Comment ? J'entends pas avec le... Dites-le bien fort. Jonas ! Vous vous souvenez de Jonas ? Et Dieu lui fait grâce, il lui fait pousser un ricin qui pousse en une journée. Dites donc, ça va vite, Et puis le lendemain, parce qu'il est toujours en train de ronchonner, Dieu fait darder son soleil, et là, le ricin, il est mort. Et il se met en colère encore. Attention que nos colères et nos mauvaises humeurs ne viennent quelquefois nous balayer du chemin. Il faut faire attention à ça. Et on en a vu, malheureusement, et quelquefois, on pleure encore sur des frères qui, quelque part, eh bien, ont buté sur des choses où, véritablement, il fallait qu'ils se laissent conduire par le Seigneur. Et puis, voilà. Ils se battaient peut-être contre leurs problèmes de colère et puis d'irritation, d'amertume, etc. Je veux bien croire qu'ils se battaient. Mais à un moment donné, ils ont baissé les bras et puis c'est parti dans l'autre sens. Donc, l'insuffisance et les ardeurs du soleil qui dénotent les épreuves qui dessèchent faute d'enracinement. Si nous ne sommes pas enracinés, mais nous risquons d'être emportés. Nous risquons d'être complètement eh bien, évincés. Parce que c'est un manque de profondeur. Demandons à Dieu, selon la parole qui nous dit, cherchez les choses d'en haut et non pas celles qui sont en bas. Dixit Paul dans, allez, on va dire, les Galates. Bon, si vous ne trouvez pas dans les Galates, vous lisez les 13 épîtres de Paul et puis après vous viendrez voir. Voilà. Manque de profondeur, d'où développement superficiel. Ouais. Fermeture. Superficialité et également stérilité. Et puis il y a une troisième considération à prendre, c'est les friches, les ronces et les épines. C'est l'encombrement. Ah oui, il y a beaucoup de choses dans notre vie qui nous encombrent. Nos craintes, nos peurs, nos effrois, notre manque de foi, de peur de perdre, de peur de mourir, de peur de vivre, pourquoi pas. Alors tout ça, c'est tout un mélange, et ça nous encombre. Nous sommes quelquefois à marcher dans un buisson, dans une friche, parmi les épines, et on se déchire avec les épines. On se fait du mal. Quelquefois, on peut faire aussi du mal aux autres. C'est l'encombrement, et la semence est étouffée à ce moment-là. Elle est étouffée, je dis bien. Et quand on ajoute eh bien, le manque de lumière, ça va faire des plantes étiolées. Baisser la tête. Quelquefois, on voit des chrétiens qui arrivent à se baisser. Je me dis, tiens, ils sont étiolés. Il faut qu'ils se remettent. Et vous savez que ça fait du bien quand on vient dans un culte et qu'on reçoit une parole de Dieu. Et là, même on peut arriver étiolé, ça peut arriver à tout le monde. Mais à un moment donné, on relève la tête. Et on dit, on y va. Ça va ? Eh bien, vous m'encouragez, moi, en tous les cas. Il n'y a que moi, mais c'est pas grave. Non, non, vous me connaissez un peu. Donc, fragilité. Il ne faut pas se mettre dans des situations de fragilité. On est chrétien, on a tout ce qu'il faut. Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Alors, parce que la croissance est insuffisante. Et puis je finis pour ce deuxième volet, c'est tout simplement la bonne terre. Remarquez bien, la vie spirituelle en parallèle, la vie de la foi, la vie avec Dieu, cette bonne terre d'abord a été labourée. Eh oui, quelquefois ça fait partie des disciplines divines, où Dieu nous dit, ben voilà, tu vas apprendre ceci, cela. Ne vous découragez pas quand c'est Dieu qui nous éduque, c'est toujours pour notre bien. C'est pas pour nous détruire. Cette terre a été engraissée, ou engraissée, par la connaissance de la parole de Dieu et notre communion avec Dieu par la prière. Et je dirais pour nous, la prière par le Saint-Esprit. Parce que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Et puis, elle a été nettoyée. Dieu a nettoyé notre cœur. Il nous a dit à un moment donné, nous avons été lavés, nous avons été blanchis. C'est Paul qui le dit. Et qui produit naturellement en abondance et de qualité. Qu'est-ce que nous voulons être ? Nous voulons vraiment être des chrétiens, alors on reste des hommes. On reste avec nos limites. On reste avec quelquefois eh bien, des choses qui ont du mal à décoller, même avec la meilleure lessive. Ça, c'est sûr. Mais une chose qui est certaine, c'est que si nous voulons, eh bien nous pouvons créer en moi le vouloir et le faire selon, Seigneur, ton bon plaisir, pas le mien. Ok ? C'est les seuls mots d'anglais que je connais. Vous voyez, vous connaissez ma culture alors. Je termine. Ça va. Un dernier aspect. Ça sera une parabole. Maintenant, qui souligne les vanités du cœur humain. Alors, on a parlé, naturellement, des illusions et des réalités. Alors, en ce qui concerne le cœur humain, les vanités, il y a beaucoup d'illusions. Quand je serai président de la République, c'est le moment. Quand je serai ceci, quand j'aurai cela, il y a beaucoup d'illusions. Mais la réalité, elle est tout autre. Et c'est là ce que nous allons dire. Donc c'est une parabole sur les vanités. Et il y a quelqu'un que vous connaissez bien, vous allez me dire que oui, il s'appelle Jotam. Ça se trouve où ça? Comment? Ça se trouve dans la Bible. Ça va? Ça se trouve dans le livre des juges. Ah oui, je commence à comprendre. Et le message que nous allons faire ressortir de cela repose sur une image qui interpelle sur la vanité de l'humanité orgueilleuse. Parce que, ne nous trompons pas, mes frères et sœurs, des orgueilleux, il n'y en a pas que dans le monde, il y en a aussi dans l'Église. Vous n'avez rien entendu. Hein. Et là où peut-être on ne pourrait pas le soupçonner. Et Paul le dénonce. Hein. Quand il dira à un moment donné que quelque part ça doit être dans Colossiens, je crois. Il dira, mais ils ont l'apparence, mais ils n'ont que l'apparence. Hein. Et nous voyons que cette vanité de l'humanité, son orgueil, c'est d'être ou d'avoir. J'ai une fortune, j'ai ceci, j'ai cela, intellectuellement, financièrement, tout ce que vous voudrez. Hein. C'est la puissance et le pouvoir. C'est se distinguer au-dessus des autres, je dis bien au-dessus des autres, en un mot, régner, dominer. Et là, on va lire un dernier texte. C'est dans Juges, chapitre 9. Juges, chapitre 9. Juges, vous savez où c'est ? Je vous dirai simplement dans la Bible. Chapitre 9 et verset 8. Et vous connaissez ce texte. Hein ? Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Hein, c'est une métaphore, naturellement. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages des hommes, de Dieu et des hommes, pour aller planer sur les arbres. Et les arbres dirent au figuier, viens toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres. Et les arbres dirent à la vigne, viens toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres. Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombre, sinon un feu sortira du buisson d'épines et il dévorera les cèdres du Liban. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Première proposition, la réponse est non. Deuxième proposition, la réponse est non. Troisième proposition, la réponse est non. Mais par contre, la quatrième, si vous voulez véritablement, eh bien, nous dit le buisson d'épines, si vous voulez régner sur eux, moi j'y vois aucun inconvénient. Et il y a là quelque part qui dénote ce que nous avons introduit il y a un instant. Les arbres de la forêt vont vers différents végétaux. Hein, il y a naturellement l'olivier, il y a le figuier, il y a également la vigne. Eux, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas régner, ils ne veulent pas planer. Parce que peut-être on peut faire un rapprochement. L'orgueilleux, le vaniteux, il plane. Hein. Je suis méchant. Hein. C'est cruel. Ah, il plane, il veut planer. C'est-à-dire qu'il veut être au-dessus de quiconque, dans toutes les circonstances. Alors les premiers disent non, on a autre chose à faire. Et ils vont donner la raison pourquoi ils ont autre chose à faire. Parce qu'ils sont faits pour donner du fruit. Ils sont faits pour apporter finalement la bénédiction et non pas la malédiction. On va le conclure tout à l'heure. Alors, ils vont venir demander à l'olivier, on voudrait que toi, tu sois notre roi, tu sois notre chef. L'olivier dit, Neni, Niet, c'est russe. Emblème de l'onction d'huile, de l'huile d'onction plutôt, et du Saint-Esprit de la vie spirituelle. Voilà, on a bien compris qu'il y a une signification tout à fait particulière. Mais mon huile, elle fait du bien, dira l'olivier, et moi je ne veux pas renoncer à ça. Alors comme c'est une réponse complètement négative à la proposition, les arbres vont se tourner maintenant vers le figuier, qui représente dans la Bible le caractère moral des hommes. Le figuier, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il représente la douceur. Il représente la bonté, il représente la bienveillance. Et le figuier, eh bien, donne du sucre. C'est quelque chose de doux. C'est quelque chose qui est bon. Et là encore, le figuier va dire, non, comme l'olivier, moi je ne veux pas régner sur vous, ça ne m'intéresse pas. Les arbres, encore une autre fois, se tournent maintenant vers la vigne, qui est connue pour son fruit, ça s'appelle le raisin. Et avec du raisin, on fait du Bordeaux. Non, du vin. On fait du vin, et il nous est même dit dans le texte, qui réjouit Dieu. Vous vous rendez compte que le Seigneur, dans le ciel, se réjouit. Et les hommes, et là j'ajouterai la formule, de boire avec modération. D'accord ? Et là, on répond, la vie répond, pas question, parce que moi j'ai ma raison d'être et j'apporte du bonheur dans la vie et les bénédictions divines. Ça, c'est naturellement, et bien. Et puis enfin, la quatrième proposition qui est faite, c'est ouvertement la malédiction. La malédiction même est recherchée et son cortège de malheur. Le buisson d'épines. Alors, naturellement, quelle gloire attendre de tout ça ? Ouais, on peut dire. Si on va vers le mal, si on se complaît finalement à aller vers ce que l'on sait qui est nocif, qui est toxique, qui est mauvais, vous allez me dire, personne ne ferait sciemment en tant que chrétien. Mais on peut se faire des illusions et dériver vers ce qui est mauvais. La réalité, c'est qu'il y a des choses qui sont bonnes, parce qu'il faut faire la différence, et moi on me l'a toujours dit dans mon ancien temps, on m'a toujours dit qu'il y a deux sortes de vérités, il y a la vérité charnelle et la vérité de l'esprit. qu'il y a les fruits du Saint-Esprit qui doivent accompagner les dons naturellement. Il y a toujours ce parallèle. Il y a une justice humaine, mais une justice divine. Et à choisir, nous qui avons la connaissance, choisissons du côté de Dieu. Elle peut nous surprendre, hein, cette justice, et puis tout ce que l'on peut y mettre. Hein. Alors, quelle gloire attendre lorsque, véritablement, on se réfugie dans le buisson d'épines? Et le buisson d'épines, c'est le monde, hein, pour ne pas faire d'illusion. Hein. Et qu'est-ce qui nous envoie, hein, qu'est-ce qui nous projette, hein, et jusqu'à nous influencer dans nos pensées, à nous tourmenter dans nos cœurs, hein, à nous amener finalement eh bien, dans des zones interdites, des zones dangereuses, des zones périlleuses. Hein. C'est les chemins, ça aussi. Hein. Et avec une certaine malignité, le buisson d'épines dira à ceux qui lui font les propositions, si c'est de bonne foi, un buisson d'épines n'est pas de bonne foi. Un menteur n'est pas de bonne foi. Attention aux illusions. Et il nous dira, mais si vous ne voulez pas de moi, et ça c'est tragique, hein, si vous ne voulez pas de moi le buisson d'épines, eh bien je vous promets, je vous garantis qu'un feu, le feu qui tue, eh bien ben, vous consumez. D'ailleurs, il est question de ce feu qui tue et qui brûle les consciences, les cœurs, les âmes des hommes qui lui font allégeance. Mes frères et sœurs, ne retournons pas en arrière. Mes amis qui découvraient l'Évangile, allez-y, marchez avec le Seigneur, remettez-vous complètement et totalement. Faites ce qu'il vous dira. Vous allez apprendre, vous allez tâtonner, vous allez avoir des épreuves, vous allez avoir toutes sortes de tentations, mais ça fait partie du chemin pour que vous ayez des racines. Et vous serez solide. Croyez bien que si nous vous disons ça, il y a des anciens ici, je peux vous dire qu'ils pourraient vous dire, mais moi depuis 50 ans je suis converti, on n'en a pas lâché une. On a toujours voulu, malgré peut-être nos hauts et nos bas, nos vallées et nos montagnes, eh bien, et le Seigneur nous a conduits, et aujourd'hui nous sommes arrivés à un certain âge, et nous savons où nous allons. Nous avons des assurances dans notre cœur. Je finis. Il en sera comme, première proposition, comme Dieu a dit, Dieu est délivrance. Quand il a résolu de nous sauver, quand il a résolu de nous délivrer, quand il a résolu de nous secourir, Dieu est délivrance. Il ne manquera pas, comme sur le bateau. Nous avons été plantés, parce qu'il est question de mon Père Céleste qui a planté, ou qui ne plante pas. Nous avons été plantés par... Nous avons été plantés pour, nous avons été plantés en Dieu pour que nous puissions manifester de la solidité et de la prospérité. Deuxième point. Troisième point, c'est le choix du meilleur et non du pire. Choisissez le meilleur et on est bien dans la présence de Dieu. Choisissez le meilleur. Alors, on est devant une question les uns et les autres. Qui nous a plantés? Vous vous souvenez de votre conversion, de votre rencontre avec le Seigneur? N'oubliez pas vos premiers jours. Ils vous suivront jusqu'à la fin et c'est eux qui vont être garants de compter les bienfaits de Dieu et de les mettre sur votre cœur et devant vos yeux. Et vous verrez combien il a été bon avec eux, chacun. Dieu est un divin cultivateur, c'est un pilote expérimenté et il est notre roi et notre Seigneur. Et puis, dans quel terrain évoluons-nous? Est-ce que nous sommes assis entre deux chaises, le monde? C'est pas facile, hein, le monde. Hein, il est souvent là, il est souvent présent, il nous influence. Hein, dans quel terrain évoluons-nous? Est-ce que nous laissons Dieu nous apporter les soins nécessaires à nos progrès spirituels? Oui, je sais ce que je suis, Seigneur, mais tu vois, ça me fait tellement plaisir de caresser encore ceci ou cela. Laisse-moi encore un peu, tu viendras plus tard, et puis on réglera le problème. Faites attention de ne pas être emporté de l'autre côté avant le temps. Hein. Il faut faire attention. Où est-ce que nous puisons notre sève? Comme dans la parabole, Jean chapitre 15, du cep et du sarment, on parlait de vigne tout à l'heure. Hein. Alors tout cela, c'est devant nous. Et j'aimerais justement terminer par une petite histoire. Vous voulez une petite histoire? Histoire. Pour ceux qui se plaignent, pour ceux qui sont malheureux, pour ceux qui gênent, et il y a peut-être des raisons pour cela. Moi, je ne veux pas juger, hein, sur... Il y a une chose qui dynamise notre vie spirituelle à la suite de ce que nous avons entendu. Si je vous dis qu'aujourd'hui est le plus beau jour de notre vie, oui. Non, mais c'est vrai. C'est le plus beau jour aujourd'hui. Hier, c'était, j'espère, c'était le plus beau jour. C'est le plus beau jour de notre vie, car hier n'existe plus. Demain, il ne se lèvera peut-être jamais. Qui peut le dire ? Je ferai ceci, je ferai cela, etc., etc. Le passé nous étouffe, ça, c'est sûr. Dans les regrets et dans les remords si nous n'avons pas réglé le problème d'hier. Ça, c'est clair, hein, c'est un gros handicap pour les chrétiens. Le futur nous berce d'illusions. Ah, quand je serai ? Si j'étais, je serai ceci, je ferai cela, etc. Donc, l'illusion. Alors, nous avons besoin d'apprécier le soleil. Je suis désolé, il n'est pas là ce matin. Il navrait, hein, mais je l'avais mandaté, mais il n'a pas dû entendre. Donc, le soleil qui se lève, réjouissons-nous de le voir se coucher. Ouais. Parce qu'il éteint la lumière quand il se couche, d'accord ? Et arrêtons, mes frères et sœurs, de dire « Il est trop tôt, il est trop tard, le bonheur, je vous le dis et je vous l'affirme devant le Seigneur, le bonheur est là. »
Amen.
D'être enfant de Dieu. » Vous savez, il y a des gens qui pleurent là aujourd'hui. J'en toucherai deux mots tout à l'heure. Mais c'est terrible. Moi, ça me donne vraiment, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais quelquefois quand je vois des enfants, quand je vois la misère, quand je vois ce que nous voyons et qu'on ne peut pas rester indifférent, ce n'est pas possible. Il y a comme des sanglots et c'est vrai, on le partage. On le partage. Alors, je crois que le bonheur est là. Il est l'instant présent. On est ensemble. On est une famille. On est des frères et des sœurs. On partage totalement notre foi en Jésus. Et c'est pas le bonheur, ça ? Oui. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Il n'y a pas que la maison de l'Éternel, parce qu'on peut l'être, et ça doit être aussi dans nos maisons, ça doit être dans toutes les circonstances. Alors, mourons à nos illusions et vivons pleinement, tout simplement, les réalités d'aujourd'hui. C'est ça ce qui fait du mal, quand on est en décalage. Avant, après, devant, derrière, tout ce que vous voulez. Que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu nous donne sa grâce. Et on va prier quelques instants autour de ce que nous avons entendu. Et j'aurai quelques annonces à vous, frères, qui sont importantes. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu as voulu que nous abordions des choses simples à travers l'image parabolique ou à travers, Seigneur, les enseignements qui ont trait à la connaissance que nous pouvons avoir de la nature humaine, de la nature toute simple. Et merci, Seigneur, parce que nous savons que c'est toutes ces comparaisons qui nous donnent de pouvoir grandir. Oui, Seigneur, tu as dressé devant nous ce matin une table, la Sainte Cène naturellement, mais tu as dressé aussi devant nous une table où la nourriture est abondante, c'est ta parole. C'est vrai, Seigneur. Alors, aide-nous, Seigneur, véritablement à ne pas vivre comme le monde dans une illusion que tout ira bien, que tout va bien, même s'il y a le péché, la mort, etc., etc. Finalement, on s'en sortira toujours, c'est faux. Mais une chose qui est certaine, c'est que en effet, la réalité, elle est tout autre. Et nous, nous devons être des hommes réalistes. Nous devons être des gens qui ont les pieds sur terre et des hommes qui ont le cœur en Dieu. Merci, Seigneur, tu bénis mes frères et sœurs et nous voulons te remercier. Merci, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse les uns et les autres. Et on se retrouve pour les annonces d'ici quelques instants après le repas de Sainte-Cène.
Voilà, gloire au Seigneur pour sa parole. Et c'est vrai, comme nous avons pu l'entendre ce matin, ce qui est important finalement, c'est véritablement de mettre notre confiance dans le Seigneur, de dépendre de lui. Amen. Et j'aimerais partager quelques textes, et je demanderai aussi avant à nos frères Roland, Damien et Bernard de s'approcher pour préparer la Sainte Cène. Je prendrai ce texte dans les Proverbes, qui nous dit « Écoute les conseils et accepte l'instruction. Ainsi tu seras sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. » D'où l'importance de lui apporter tous nos projets, tous nos désirs. C'est le plan de l'Éternel qui s'accomplira toujours. Et encore ce texte dans les psaumes qui nous dit « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Aie le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Amen. Amen. Mets en lui ta confiance. On l'a chanté tout d'abord au début du culte. J'ai confiance en mon Seigneur. Même à travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. Parce que c'est le Seigneur qui conduit toutes choses. Et il sait pour chacun d'entre nous ce de quoi sera fait demain. Alors faisons-lui confiance. Amen. Et avant de partager la Sainte Cène, c'est encore ce texte, il dit « Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui appartient à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Et je rappelle ce que dit ce texte, qu'il est venu avec son propre sang et nous a obtenu ainsi un rachat éternel. Amen. Tout ça, pas simplement pardonner pour ce temps présent, mais aussi pour l'éternité, parce que dans la présence de Dieu, il n'y aura que ce qui est saint, ce qui est sanctifié, et c'est le sang de Jésus qui nous a sanctifiés, cela pour l'éternité. Nous pouvons nous réjouir de cela dans la présence du Seigneur. On peut se lever maintenant, si vous voulez bien, pour partager la Sainte Cène. S'ils sont baptisés d'eau par immersion, comme cela est enseigné, je demanderai à Damien de rendre grâce.
Amen. Merci. Seigneur, c'est vrai que nous voulons te bénir, te remercier, parce qu'en effet, notre bonheur, Seigneur, à nous, c'est de te connaître. Notre bonheur à nous, Seigneur, c'est de savoir que tu es là. De savoir, Seigneur éternel, que tu prends soin de nous. De savoir, Seigneur, que tu as des pensées de paix et non d'adversité pour nous, Seigneur, notre Dieu. On veut te bénir encore ce matin, Seigneur, parce que c'est vrai que tu nous appelles encore là à commémorer, Seigneur, et bien ce que tu as fait pour nous. Nous souvenir de l'amour que tu nous as porté, Seigneur, en te donnant, et bien, la croix du calvaire. On va encore te bénir ensemble ce matin, de célébrer et t'adorer parce que tu nous offres le contentement, Seigneur. Tu nous offres, Seigneur, de pouvoir réaliser le bonheur qui est le nôtre, Seigneur, d'être ensemble, de pouvoir te louer ensemble, de pouvoir t'adorer ensemble, Seigneur, notre Dieu. Et ça nous suffit, Seigneur. Oui, Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que tu as donné ta vie pour nous. Tu nous as prouvé ton amour de la plus belle des manières, Seigneur. Tu t'es offert pour nous, Seigneur. Merci pour ton sang qui a coulé à cause de nous. Merci pour ton corps qui était brisé, Seigneur, et bien à cause de nous. Oui, nous voulons vraiment encore te donner toute la gloire ce matin, t'adorer, te célébrer, te rendre grâce parce que tu nous donnes encore d'avoir part à ce repas ce matin. Pour encore, eh bien, nous voulons encore le prendre comme une bénédiction de ta part, Seigneur éternel. Nous souvenir que, en prenant eh bien, ce pain et ce vin, nous entrons, Seigneur, dans ton alliance, Seigneur. Alors, que ton nom soit béni, que ton nom seul soit glorifié et élevé parmi nous encore ce matin. Oui, gloire à toi, Père, dans le précieux nom de Jésus.
Amen. Amen. Prenez votre place dans la louange et dans l'adoration, même ceux qui nous rejoignent, vous avez toute l'attitude pour le faire, et bénissez, soyez bref, mais dites merci au Seigneur. Et c'est, je crois, quelque chose qui est très important, parce que la traversée de louange, moi je crois que le Saint-Esprit préside au milieu de nous. Allez-y.
Béni sois-tu, ô Éternel, parce que tu es ma paix. Merci pour ta parole, car elle est la vérité, ô Éternel. Merci pour le sacrifice à la fin, ton sang appuyé pour chacun de nous. C'est pourquoi je te loue et je t'adore. Et merci aussi aux puissants de Jacob.
Alléluia, merci Seigneur. Seigneur éternel, nous avons compris ce matin que tu nous as semés dans une terre de bénédiction, malgré, Seigneur, que nous avons passé par ces différents terrains, quelquefois dans nos vies. Et nous sommes là, dans ce terreau divin, pour porter du fruit à la gloire de Dieu. Combien, Seigneur, tu peux nous aider, nous arroser par ton Saint-Esprit, pour qu'on puisse pousser et rendre ce fruit pour ta gloire. Merci. Merci à toi, Seigneur, pour ta parole. Tu nous dis, tu es un guide, tu es une lumière extraordinaire. Nous te bénissons et nous te louons ce matin. Amen.
Alléluia. Gloire à toi, Jésus.
Merci de m'avoir sauvé, Jésus. Merci d'être là, Seigneur, à cet instant, aujourd'hui, Seigneur. Merci de m'aimer, de me donner de force, de me lever sur ton chemin, Seigneur. Merci pour tout ce que tu feras encore pour moi. Tu as fait beaucoup de choses. Tu m'as sauvé. Tu m'as béni tout le temps. Merci.
Amen. Gloire à toi. Béni soit ton nom, Seigneur. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant, bien fort. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, béni soit ton nom, Jésus.
Merci pour le sang versé, Seigneur. Oui, tu nous as ouvert la voie, Seigneur. La voie qui mène au trône de la grâce, Seigneur. La voie qui mène au Père éternel, au Dieu créateur. Ô Jésus, oui, ton sang a couvert nos péchés, nos fautes, Seigneur. Ô Dieu tout-puissant, nous pouvons t'adorer. Nous pouvons te louer, Seigneur. Nous pouvons t'offrir nos vies, Seigneur. Oui, c'est toi qui nous as créés. Et c'est toi qui crée en nous, Seigneur. Oh, la volonté de te suivre, Seigneur. C'est toi qui crée en nous un cœur nouveau, Seigneur.
Oui, c'est vrai, Jésus. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci, Jésus. Quelques moments de louange collective, si vous voulez. Simplement dire, eh bien, merci Seigneur, alléluia, gloire à toi Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions. Parce que c'est vrai, en effet, nous ne voulons pas, eh bien, nous laisser accabler. Nous ne voulons pas, en effet, que tout ce qui peut nous tourmenter, eh bien, devienne l'obstacle à notre vie spirituelle, à notre joie, à notre paix, à notre bonheur. Alors ce matin, nous voulons forcer, c'est vrai Seigneur, tous ces empêchements, toutes ces choses qui sont véritablement des poids morts, des poids lourds. Et nous voulons, Seigneur, eh bien, te dire que nous t'aimons, Seigneur, que tu es notre Sauveur, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs. Tu règnes et tu reviens bientôt, Jésus. Maranatha, louange et gloire à notre Dieu merveilleux. Merci, Jésus. Amen. Béni soit ton nom.